Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous. Le Monde aujourd'hui, Abdourahmane Dia pour vous présenter cette édition de 17h30 GMT. Nous sommes vendredi 5 mai 2017 au sommaire. Au Nigeria, dans une nouvelle vidéo, le chef de Boko Haram, Aboubakar Shekau, a démenti avoir été blessé par l'armée nigériane. Un soldat américain a été tué en Somalie lors d'une opération contre le groupe Al-Shabaab, quelques semaines après l'envoi de conseillers militaires par Washington. Un ex-ministre guinéen reconnu coupable à New York d'avoir accepté des pots de vin de deux sociétés chinoises.
La Guinée, on ne mange pas, on ne boit pas, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, les enfants ne vont même pas à l'école, des fois, et on n'a même pas de table banque. Quelqu'un arrive à détourner cet argent-là et venir vraiment faire la belle vie.
Analyse dans la partie magazine de ce journal. Et en France, c'est le dernier jour de campagne avant le second tour de la présidentielle prévue ce dimanche. Ne ratez pas les informations sur l'actualité économique et les sports, mais tout d'abord le journal. Tout d'abord, l'armée tchadienne affirme avoir riposté ce vendredi à une attaque des combattants de Boko Haram à Kaïga, près de la frontière avec le Niger. Une quarantaine d'assaillants ont été tués, selon des sources locales contactées par le correspondant de VOA Afrique à N'Djamena. Le préfet du département de Kaya, Bagassola, confirme mais parle d'un bilan provisoire et précise qu'une dizaine de morts ont été enregistrés du côté de l'armée tchadienne. Le président nigérian Muhammadu Buhari a effectué ce vendredi sa première apparition publique depuis des semaines, une absence qui avait alimenté les inquiétudes sur son état de santé. M. Buhari est apparu sur une vidéo postée sur Twitter par la présidence. Le chef de l'État, âgé de 74 ans, a participé à la prière du vendredi dans une mosquée à la résidence présidentielle d'Abuja. Et toujours au Nigeria, 5 personnes ont été tuées par deux attentats suicides attribués à Boko Haram dans le nord-est du pays. Aboubakar Shekau a annoncé plusieurs fois, qui a été annoncé donc plusieurs fois mort ou blessé, est réapparu sur une vidéo. Les détails avec Tatiana Mousso.
Le porte-parole de la police pour l'État du Borno a rapporté que deux femmes portant des ceintures explosives les ont déclenchées jeudi soir dans une foule dans la zone de Kondunga, non loin de Maïdougouri, se tuant et tuant 5 autres personnes. 6 personnes ont également été blessées dans ce double attentat la veille. Parallèlement, dans une vidéo publiée jeudi, Aboubakar Shekau a encore une fois démenti les informations disant qu'il a été fatalement blessé dans un bombardement de l'armée. Sur la vidéo, le leader du groupe djihadiste répète à tue-tête « Je suis en vie, je n'ai jamais été blessé ». Depuis 2 ans, les insurgés ont été chassés de la plupart des territoires dont ils s'étaient emparés en 2014 pour fonder un califat. Malgré cet affaiblissement, les attaques et attentats suicides continuent, les checkpoints militaires, camps de déplacés et mosquées de l'État de Borno ont été particulièrement visés ces derniers mois.
Restons au Nigeria où l'agence anticorruption a condamné pour la première fois 2 hommes pour détournement d'aide humanitaire destinée aux victimes de Boko Haram. Oumar Ibrahim et Boulama Al-Zangebe ont été condamnés à 2 ans de prison ferme assortis d'une amende de 2 900 € chacun pour avoir vendu 180 sacs de riz destinés aux personnes déplacées par l'insurrection. La Cour de justice de Maïdougouri a révélé que la vente de ces sacs avait remporté plus de 3 000 €. La communauté des États sahélo-sahariens a réitéré sa volonté de créer un centre CENSAD de lutte contre le terrorisme qui sera basé au Caire. Cette annonce a été faite à Abidjan au terme de la 5e réunion des ministres de la Défense de la CENSAD qui regroupe 28 pays. L'idée avait été émise en 2016 lors de la précédente réunion annuelle en Égypte. Elle a donc été relancée à Abidjan avec un calendrier et des modalités de fonctionnement qui restent floues. Au Libéria, l'empoisonnement pourrait bien être la cause de 12 récents décès inexpliqués. C'est ce qu'a estimé l'Organisation mondiale de la santé alors que 3 nouveaux malades ont été enregistrés. Selon l'OMS, qui avait déjà écarté l'hypothèse d'une nouvelle épidémie Ebola, 28 cas, dont 12 mortels, ont été identifiés en 2 semaines. Une équipe d'intervention sanitaire rapide a été déployée pour enquêter sur un lien potentiel entre les malades, dont certains ont assisté récemment à des funérailles dans la province de Sinoé. Un soldat américain tué en Somalie, d'après le commandement américain pour l'Afrique. L'incident s'est produit hier dans une opération contre les Shebab près de Bari, à environ 60 km à l'ouest de Mogadiscio. Les détails avec Morgane Guériec.
Selon l'Africom, le centre de commandement américain, les troupes impliquées dans l'opération avaient pour mission de conseiller et assister l'armée somalienne. Le soldat américain a été tué par un tir d'arme légère. Deux autres soldats ont été blessés. À la mi-avril, les États-Unis avaient annoncé avoir mobilisé quelques dizaines de soldats en Somalie à la demande de Mogadiscio pour assister les forces locales dans le cadre de la lutte contre les Shabab. Fin mars, l'administration du président Donald Trump avait étendu les pouvoirs donnés aux militaires américains pour mener des frappes en Somalie contre les Shebab affiliés à Al-Qaïda.
La famine qui ravage le Soudan du Sud pourrait bien virer à la catastrophe humanitaire si la communauté internationale échoue à se mobiliser. Des ONG ont lancé cette mise en garde lors du Forum économique mondial sur l'Afrique. L'ONU a estimé à 1,5 milliard d'euros le montant de l'aide nécessaire pour éviter un lourd bilan en vies humaines au Soudan du Sud. Et à ce jour, seuls 26% de cette somme ont été réunis. Les élections législatives hier en Algérie n'ont réservé aucune surprise. Le Front de Libération Nationale, FLN, du président Abdelaziz Bouteflika arrive en tête avec 164 sièges. Son allié, le Rassemblement National Démocratique, prend la deuxième place avec 97 députés sur les 462 qui seront à l'Assemblée nationale. Le point avec Jacques Aristide.
Les deux partis conservent la majorité à l'Assemblée, mais le FLN est en recul par rapport au précédent scrutin il y a 5 ans. La participation n'a atteint que 38,25% des inscrits contre 43% en 2012. Il s'agissait des premières législatives depuis l'adoption l'an dernier d'une réforme constitutionnelle qui élargit les pouvoirs législatifs. L'Assemblée peut désormais être consultée sur la nomination du Premier ministre et il a été rétabli la limitation à 2 du nombre de mandats présidentiels. Mais pour de nombreux analystes comme pour l'opposition, cette Assemblée demeure pour l'essentiel une chambre d'enregistrement. La nature du pouvoir entre les mains d'une élite n'a pas changé depuis l'indépendance en 1962. Élu pour la première fois en 1999, le président Bouteflika, 80 ans, n'apparaît que rarement en public depuis l'accident vasculaire cérébral dont il a été victime en 2013. Il a été vu hier assis sur une chaise roulante pour accomplir son devoir de citoyen à Alger. Pour des observateurs, 2019 sera la véritable échéance quand aura lieu la présidentielle dans un pays en pleine crise économique.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici aux États-Unis, le taux de chômage est tombé à son plus bas niveau en une décennie, tandis que les créations d'emplois ont vivement rebondi selon le rapport officiel sur l'emploi publié ce vendredi. Le taux de chômage est descendu à 4,4%. L'économie a créé 211 000 emplois, dépassant les prévisions des analystes qui misaient sur 180 000 nouvelles embauches pour le mois d'avril. Pyongyang accuse la CIA et les services de renseignement sud-coréen d'un complot pour assassiner le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un à l'aide de substances biochimiques. Cette accusation survient au moment où Pyongyang multiplie les dénonciations à l'égard de la Corée du Sud et des États-Unis en réponse à la rhétorique du président américain Donald Trump qui se dit prêt à régler seul et au besoin par la force la question nord-coréenne. Fin de la campagne présidentielle sous haute tension en France. 47,5 millions de Français sont appelés aux urnes dimanche pour choisir leur président entre le centriste Emmanuel Macron et la candidate d'extrême droite Marine Le Pen. Les détails avec Nathalie Barche.
Avant la clôture de la campagne, à 22h, temps universel, Emmanuel Macron voit son avance se conforter dans les derniers sondages à 62% contre 38% pour Marine Le Pen. La leader du Front National a visité la cathédrale de Reims dans le nord-est, où des manifestants étaient venus munis de ballons aux couleurs de l'Union européenne. Emmanuel Macron a poursuivi son programme en visitant aussi une cathédrale à Rodez, dans le sud-ouest. Il a confié avoir déjà choisi son premier ministre s'il est élu. L'entre-deux-tours a été particulièrement âpre avec un point culminant lors d'un débat télévisé mercredi qui a viré à la joute verbale entre les deux candidats. Emmanuel Macron votera au Touquet dans le Nord dimanche et Marine Le Pen à Hénin-Beaumont également dans le Nord. À deux jours du scrutin, 68% des personnes interrogées se disent certaines d'aller voter.
Des centaines de Jordaniens ont manifesté aujourd'hui à Amman pour soutenir les prisonniers palestiniens en grève de la faim dans les prisons israéliennes depuis le 17 avril dernier. Les détenus palestiniens ont cessé de s'alimenter afin de protester contre leurs conditions de détention, mais aussi pour dénoncer les injustices dont ils se disent victimes. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. Et c'est tout de suite l'actualité économique en Afrique présentée ce soir par Claire Morin-Jubourg.
En RDC, 14 citoyens chinois accusés d'exportation illégale de bois rouge congolais ont été arrêtés hier dans le sud-est du pays. Selon Célestin Pandé, le gouverneur intérimaire du Haut-Katanga, 17 000 tonnes de bois rouge ont fait l'objet d'exportations illégales vers la Chine en 4 mois en passant par la Zambie. Un responsable du service d'immigration du Haut-Katanga a confirmé sous couvert d'anonymat qu'au total, ce sont 14 ressortissants chinois, détenteurs de visas de touristes, impliqués dans la coupe et l'exportation illégale du bois, qui ont été arrêtés. Renforcement de la coopération entre le Burkina Faso et le Ghana, suite à la visite du président Nana Akufo-Addo à Ouagadougou. Parmi les partenariats stratégiques, selon Rockmart Christian Caboret, figure l'interconnexion électrique entre Bolgatanga et Ouagadougou et la gestion intégrée des ressources en eau de la Volta. Le président burkinabé a insisté sur l'importance de la ligne Accra-Ouagadougou. Les banques d'Afrique de l'Ouest ont à nouveau augmenté leur taux d'intérêt débiteur à leur clientèle, selon l'UMOA. Hors charges et taxes, le taux moyen est passé de 6,80% en février à 7,3% en mars 2017. Meilleure nouvelle pour les épargnants, le taux moyen de rémunération des dépôts est passé, lui, de 5,30% à 5,40%.
Bagassi Koura, bonsoir.
Oui, bonsoir Abdulaziz, bonsoir à tous.
Abdourahman, mais c'est pas grave. Donc on démarre cette page des sports avec la deuxième demi-finale hier soir de la Ligue Europa.
Oui, c'était donc hier entre le Manchester United et le Celta Vigo. Donc Manchester qui a gagné cette rencontre en Espagne 1-0.
Et les étalons locaux au Burkina Faso tenus en échec par le Bénin.
Oui, les étalons locaux et leurs homologues du Bénin se sont neutralisés ce jeudi, un but partout au stade du 4 août, en match international amical. C'est le Burkina Faso qui a ouvert le score en première période par Lassina Traoré. Les écureuils ont arraché l'égalisation par l'entremise de Marcelin Koukpo en seconde période. Ce match Burkina Faso-Bénin entrait dans le cadre des préparatifs du deuxième éliminatoire du championnat d'Afrique des Nations, CHAN 2018. En août prochain, les étalons seront opposés au Ghana.
En football toujours, le Gabon affrontera la Zambie en match amical.
Oui, on l'a appris hier et ce sera le 3 juin à Libreville selon les organisateurs pour préparer le début de la course à la CAN 2019. Pour la première journée de qualification pour Cameroun 2019, le Gabon se rend au Mali le 10 juin. Le même jour, la Zambie reçoit le Mozambique.
L'arbitrage vidéo sera utilisé pour tous les matchs du championnat du Portugal.
Oui, c'est dès la saison prochaine, selon la Fédération nationale, qui espère ainsi mettre fin aux querelles incessantes entre les trois grands clubs du pays. La finale de la Coupe du Portugal, qui opposera le Benfica Lisbonne au Vitória Guimarães le 28 mai, servira de premier test grandeur nature pour un match officiel.
Athlétisme à présent, première tentative pour courir le marathon en moins de 2 heures.
Oui, 42 195 kilomètres en moins de 2 heures, projet de la société américaine Nike avec le champion olympique kenyan Eliud Kipchoge. Et cela va se dérouler samedi prochain sur l'autodrome de Monza, c'est en Italie, avec un départ à 5h45.
Merci beaucoup Bagassi.
Merci.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. À présent, les dossiers du jour. L'ex-ministre guinéen des Mines, Mahmoud Thiam, a été reconnu coupable de corruption par la justice américaine. Il avait reçu des pots de vin lorsqu'il était au gouvernement entre 2009 et 2010. Pour comprendre l'affaire, Dili Diko a joint Alpha Issiaka Diallo, membre du parti d'opposition guinéen UFDG, ici à New York.
Le ministre, M. Mohamed Thiam, a été reconnu coupable de blanchiment d'argent et de détournement d'une somme de 8 millions et demi de dollars américains.
Comment est-il venu en possession de cette somme?
Cette somme, il a acquis cette somme par l'intermédiaire de transactions que lorsqu'il était ministre, entre lui et une société chinoise, China International Fund Ltd, pour l'obtention de marché des mines en Guinée. Le gouvernement guinéen réclamait 7 millions de dollars de financement et lui, il a fait encore avec la transaction, il a obtenu pour lui en détournement 8 500 000 dollars. Et il a mis l'argent dans une banque américaine et à partir de là, les Américains quand même l'ont suivi pour blanchiment d'argent et détournement de fonds.
Que va-t-il se passer alors maintenant pour l'ancien ministre?
Je crois que ce qui va se passer en première position, la justice américaine a mis en demeure parce que vous connaissez que la loi américaine ne blague pas avec le blanchiment d'argent et surtout le détournement. Le gouvernement américain va saisir tous ses biens. Je rappelle que ici, M. Mohamed Thiam a une propriété de 30 hectares ici à New York et encore avec d'autres biens et encore il a payé l'argent là pour les frais de ses enfants. Maintenant, la justice américaine est en train de saisir ces biens là et le gouvernement guinéen a fait, eux aussi, ils ont encore réagi et ils ont demandé à ce que le gouvernement, ou en tout cas ce qui sera pris, de déduire les dépenses que la justice devrait, en tout cas le gouvernement américain doit reprendre. Le reste, ça va redevenir au gouvernement guinéen. Ça sera une propriété du gouvernement guinéen. Ça, c'est selon le ministre Sako, le ministre de la Justice. Ils ont réclamé, ils ont fait une requête.
À quel type de peine pourrait-il faire face actuellement?
D'abord, M. Thiam, il est naturalisé aussi américain. Il va subir tout ce que vous connaissez comme peine pour quelqu'un qui a fait blanchiment d'argent. Là, c'est ce qu'on appelle la corruption totale. Lui, il a empoché lui seul 8 millions à dépens du contribuable guinéen. La Guinée, on ne mange pas, on ne boit pas, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. Les enfants ne vont même pas à l'école, des fois, et on n'a même pas de table banque. Et c'est extrêmement la pauvreté là-bas. Quelqu'un arrive à tourner cet argent-là et venir vraiment faire la belle vie. Nous souhaitons que la loi soit appliquée à ce monsieur pour qu'il donne exemple aux autres ministres qui sont en train de s'enrichir au dos du contribuable haïtien.
C'était Alpha Issiaka Diallo, joint à New York par Dili Diko.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
À Bamako, au Mali, la rencontre de partenariat conjoint entre le G5 Sahel et l'Union européenne a pris fin hier. Cette quatrième réunion a été dominée par la mise en place effective de la force commune du G5 Sahel. Les questions de partenariat stratégique en rapport avec le développement, la paix et la stabilité, sans oublier la lutte contre l'insécurité, le terrorisme et l'immigration clandestine. Cette rencontre de deux jours a été sanctionnée par une conférence de presse. De Bamako, notre correspondant Kassim Traoré.
Au nord du Mali, c'est la course contre la montre. Il y a une guerre des coalitions. Il y a les pays du G5 qui veulent se regrouper et faire une armée commune pour s'impliquer contre le terrorisme au Sahel. Il y a également le gouvernement malien qui, de son côté, veut mobiliser également les ex-rebelles pour reprendre le nord du territoire. Il y a les islamistes qui prennent les deux rangs, aussi multiplient les attaques et eux, récemment, ils ont créé également leur coalition. autre point, c'est que la France de Hollande, qui a fait une guerre depuis 2013 et qui n'a pas vraiment fait des résultats avant le départ de Hollande, ils veulent prouver qu'il y a quelque chose qui a été fait sur le terrain. Finalement, c'est toutes ces forces donc, qui s'affrontent.
Quelle est la force qu'on peut donner à cette nouvelle coalition, cette alliance djihadiste récemment créée?
On peut lui attribuer deux forces. Déjà, il y a une force locale et également une force islamiste, parce que ce sont des groupes islamistes armés et parmi aussi les groupes les plus radicaux comme Al-Murabitoun, qui a revendiqué de façon plusieurs attentats, et Al-Qaïda, déjà, et plus Ansar Dine, qui est un mouvement indépendantiste, mais également djihadiste. Donc, indépendantiste, c'est un mouvement local qui regroupe des combattants Touareg. On a vu les récentes attaques contre des hôtels et tout cela. Les djihadistes ont voulu à ce que les auteurs soient des nationaux. C'est une coalition des djihadistes et des ex-indépendantistes, de toute façon, qui sont des radicaux.
L'accord d'Alger a tenté de stabiliser notamment le nord du Mali. Est-ce qu'on peut penser que les signataires de cet accord sont capables de se mettre ensemble pour faire face à cette nouvelle coalition?
C'est déjà une bonne question parce que la coalition des djihadistes, surtout, se sont engagés contre cet accord d'Alger. Mais l'application de l'accord sur le terrain est difficile et que les islamistes veulent faire peur à tous ceux qui tenteraient de s'impliquer en faveur de l'application de cet accord. En tout cas, aujourd'hui, c'est un rapport de force. Il faudra que vraiment les signataires de l'accord soient vigilants et puis mettent tous les moyens nécessaires, que ce soit stratégique, moyens militaires et tout. Et développement, surtout le développement, c'est très important pour vraiment s'ils veulent vaincre les islamistes. Mais pour le moment, la guerre est loin d'être terminée.
Restez avec nous à Bamako, au Mali, sur le 102 FM, CVO Afrique, 24 heures sur 24.
On passe à l'Afrique du Sud où trois anciens présidents, Frédéric de Klerk, Thabo Mbeki et Klabima Motlanthe, viennent de lancer un appel à l'action pour mettre un terme à la crise. Au Parlement, le vote prochain sur une nouvelle motion de censure ne semble pas effrayer le président Jacob Zuma, accusé de corruption. Les divisions au sein de l'ANC se font de plus en plus visibles. Le professeur André Thomas Hussein de l'Université d'Afrique du Sud nous offre son analyse.
C'est une initiative qui nous a surpris un peu parce que l'unité entre Thabo Mbeki et de Klerk dans le passé n'existait pas. C'était Thabo Mbeki qui a expulsé en effet de Klerk de sa position de vice-président qu'il détenait encore dans le temps de Mandela. Et pendant beaucoup d'années, beaucoup de blancs en Afrique du Sud et évidemment M. de Klerk lui ont pris ça pour mal. Mais ils ont trouvé un ennemi commun. Ils ont en conjoint déclaré que l'Afrique du Sud aujourd'hui serait un pays malade et qu'il aurait besoin d'un soin et qu'il aurait besoin d'une récupération qui sera profonde et de longue durée. On ne peut pas nier que l'économie de l'Afrique du Sud a baissé, mais il faut aussi en vérité avouer qu'il y a des circonstances mondiales, qu'il y a eu deux crises économiques mondiales très profondes et que l'Afrique du Sud, en effet, s'en est pas tout à fait mal tiré.
Si c'est vrai, qu'est-ce qui pose problème? Est-ce la personnalité de Jacob Zuma? Est-ce que ce sont les affaires de corruption, ses problèmes au sein du parti avec une frange plutôt radicale?
Bon, profondément, c'est une guerre au sujet de l'âme, de l'identité de l'ANC. D'un côté, il y a la faction de Thabo Mbeki et évidemment de Klerk qui représente l'hémisphère nord, qui représente les grands pays industrialisés de l'hémisphère nord et les options économiques anglo-britanniques. De l'autre côté, représenté par Zuma, c'est l'alternative des BRICS, l'alliance un peu accidentelle du Brésil, de la Russie, de l'Inde, de la Chine et de l'Afrique du Sud. C'est une approche fondamentalement différente. Cette guerre idéologique, elle n'est pas du tout terminée. Les gens qui suivent Zuma sont convaincus qu'ils détiennent toujours la majorité, parce que les 40% de chômeurs, les 40% de la population adulte qui n'ont pas un emploi formel ou régulier, ces gens-là, ils vont toujours appuyer Zuma.
Est-ce le début de la fin pour Jacob Zuma?
La fin de Jacob Zuma est prévisible, parce que son mandat va expirer d'ici à 16 mois. Il s'agit seulement s'il partira avant la fin de son mandat ou pas. Il partira certainement s'il se rendra compte qu'il n'aura plus de majorité dans l'Assemblée nationale. Les syndicats ont fait une démonstration de force à l'occasion du 1er mai, des célébrations. Ils ont empêché que Zuma puisse prononcer son discours. Mais il faut dire que des mouvementations de masse n'existent pas à ce moment-ci. Les démonstrations qu'il a eues, ce sont des démonstrations de la petite et la moyenne bourgeoisie. Ce sont quelques centaines de personnes. Il y a eu une tentative aujourd'hui de bloquer le trafic sur une autoroute principale qui fait la liaison entre la capitale Pretoria et l'aéroport international de Johannesburg. Mais il n'y a pas un mouvement semblable à ce qui se passe au Brésil ou ce qui s'est passé en Turquie.
C'était André Thomas Hausen de l'Université d'Afrique du Sud, interrogé par Gabi Dorsil. Vous pouvez écouter la totalité de l'interview sur le site de voafrique.com.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2.
Les filières scientifiques sont de plus en plus prisées par les étudiantes camerounaises, dont l'effectif est de 48% à l'université de Yaoundé et progresse à l'école polytechnique où elles ne sont toutefois que de 30%. Les premiers prix de la plupart des grandes écoles sont raflés par les filles et la qualité de ces diplômes est meilleure chez les filles. C'est ce qu'a dit à VOA Afrique le professeur Jean-Emmanuel Pondy, joint par Nathalie Barche.
Au Cameroun, il y a un engouement de plus en plus prononcé pour les filières scientifiques par rapport aux jeunes étudiantes qui sollicitent l'entrée dans ces écoles-là. L'université comme celle de Yaoundé 1 a un effectif de 50 000 étudiants. Il y a 48% d'étudiantes. Maintenant, dans nos écoles, en particulier l'École nationale supérieure polytechnique, qui est l'école scientifique et technologique par excellence, il y a 30% d'effectifs féminins.
Est-ce que selon vous, les filles seraient moins intéressées par ces filières ou non?
Non, on constate réellement que c'est un mythe.
L'idée selon laquelle elle serait moins pour les mathématiques et plus pour les lettres, c'est un mythe.
Les prix, les premiers prix dans la plupart de nos grandes écoles sont raflés par les filles. Et les garçons se retrouvent au milieu du tableau souvent et non plus au haut du tableau. C'est pour dire que quand elles ont la possibilité de s'exprimer sur le plan académique, il n'y a aucun complexe. Que ce soit dans nos écoles de médecine, dans nos écoles d'ingénieurs comme l'École nationale supérieure polytechnique, ou bien dans les facultés de sciences, où on retrouve le même phénomène de qualité dans la performance. C'est pas simplement une performance, mais c'est la qualité dans cette performance au niveau des classements.
Donc ce qui veut dire que si on arrive à atteindre 50% de filles dans les universités, logiquement, on aura plus de filles diplômées que de garçons diplômés.
Et oui, incontestablement. Et même la qualité de ce diplôme est supérieure chez les filles. C'est mon constat de 30 ans dans le monde académique.
Est-ce que donc l'on aurait tendance à promouvoir l'accès des filières scientifiques pour les filles?
Oui, disons qu'il y a un certain nombre de blocages sur lesquels on travaille aujourd'hui, et notamment le harcèlement sexuel. Parce que c'est une des choses qui faisait partir un nombre important de jeunes filles. Mais là maintenant, nous sanctionnons les comportements qui n'ont rien à voir avec l'académie.
C'était le professeur Jean-Emmanuel Pondy à Yaoundé, au Cameroun.
Salut les amis, Roger Muntou, la voix de l'Amérique. Restez branchés chaque vendredi dans l'émission RM Show entre 20h et 21h, temps universel. Au menu, Island Music, la bonne musique des Caraïbes. Ne ratez pas votre émission interactive. Participez en direct. RM Show vous dit Peace Africa.
C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. À la mise en onde, il y avait Michel Joseph. À la console, Nick Ivanov. Présentation, Abdourahman Dia. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur notre site internet voafrique.com pour l'actualité 24 heures sur 24. Au revoir.
Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako, sur 102 FM. Raga FM, Kinshasa. Soleil FM, Conakry. 92.3 FM, Radio Wentanga. Wayeguya, Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.